France Inter. Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux.
Bonjour Sandro Gozzi.
Bonjour.
Vous êtes italien, donc ancien ministre des Affaires européennes du gouvernement de centre-gauche de Matteo Renzi. Vous êtes désormais 22e sur la liste La République en marche, la liste En Marche pour les Européennes.
Renaissance.
Le projet Renaissance, donc. D'ailleurs, comment êtes-vous arrivé sur cette liste? Est-ce que vous étiez postulant? Est-ce qu'on est venu vous chercher? Ça s'est passé comment?
Non, j'étais postulant. J'étais postulant parce que je partage pleinement les projets européen des En Marche d'Emmanuel Macron et je m'y retrouve et quand j'ai vu que En Marche voulait incarner aussi une bataille qu'on a fait ensemble avec Emmanuel Macron, Nathalie Loiseau, moi-même, d'introduire des listes transnationales, de donner la possibilité aux citoyens européens de voter pas seulement des listes nationales mais des listes européennes qui se présentent dans tous les continents. C'est une bataille qu'on a fait et on n'a pas pu passer outre l'opposition du Parti Populaire Européen. Et je me suis dit que c'était une belle occasion d'incarner ces listes transnationales avec ma candidature, parce que du moment où on n'aura pas une véritable politique transnationale, des véritables partis politiques transnationaux européens.
Partis politiques transnationaux,
absolument.
Ça marcherait comment?
Ça marcherait avec des listes dans lesquelles il y a des femmes et des hommes de différentes nationalités.
Mais même dans les élections locales?
Élus directement. Bon, tout d'abord, pour les parlements européens, c'est un projet que j'avais proposé en 2016, que Macron a défendu en campagne électorale, qui a indiqué dans les discours de la Sorbonne, et qui est une des priorités que nous voulons mener dans les nouveaux parlements européens. Pour moi, la démocratie européenne sera véritablement accomplie seulement quand il y aura des mouvements politiques transnationaux élus directement par les citoyens. Aujourd'hui, on élit seulement des listes nationales. La possibilité d'incarner ça. Il y a aussi une autre candidate grecque dans notre liste, d'incarner ça, de mener ces combats, de témoigner ces combats, du fait qu'aujourd'hui on est citoyen européen de nationalité française ou italienne. Ceci ne sont pas des élections nationales, ce sont des élections européennes, pas pour l'Assemblée nationale, pour un Parlement européen. Je crois que c'est un combat qui me passionne et c'est la raison pour laquelle j'ai postulé.
On va parler de vos combats européens et des élections européennes dans un instant. Juste pour un rappel, vous avez donc été secrétaire d'État à l'Europe du gouvernement Matteo Renzi. Après 2 ans de pouvoir, le réformateur a dû partir. Renzi est tombé à la faveur d'un référendum d'ailleurs. Ça a précipité les nationalistes 5 étoiles et la Ligue au pouvoir. Rappelez-nous quel contexte a facilité en Italie l'arrivée des nationalistes.
Deux raisons principales en discutant aussi des questions européennes. L'impact de la crise économique et financière, l'impact social, les traitements du gouvernement Monti qui a été très dur du point de vue social et qui a augmenté dans l'immédiat les inégalités sociales. C'était très dur et ça a été perçu comme quelque chose imposé par Bruxelles, imposé par l'Europe. C'était pas vrai, mais c'est comme ça qu'a été perçu par les citoyens.
Également la crise des migrants.
Et absolument, l'absence européenne en 2013, en 2014, dans la Méditerranée, laquelle l'Italie a été laissée seule trop longtemps.
Italiens qui disent qu'ils ont été abandonnés par l'Europe et par la France, notamment en partie, ils n'ont pas complètement tort.
En 2014, on a eu du mal à convaincre nos partenaires européens, Matteo Renzi et moi-même, que l'immigration et la Méditerranée, ce n'est pas une question italienne, c'est une question européenne. Maintenant, on y est arrivé. Et d'ailleurs, on a réduit les flux. C'est le télégouvernement duquel je faisais partie, le gouvernement Gentiloni, qui a réussi à réduire les flux de la Libye de 90%. Ce n'était pas ce gouvernement-là. Ce gouvernement-là est en train de bénéficier de nos mesures. Mais sans doute, les retards avec l'Europe intervenus dans la Méditerranée, c'était sans doute une raison du succès des nationalistes.
Est-ce que vous pensez que justement cet échec de Matteo Renzi peut servir de leçon? En tout cas, c'est un avertissement pour Emmanuel Macron.
Je ne crois pas qu'on a besoin de donner du conseil au président de la République.
Ah bah on peut toujours.
Je crois que Matteo Renzi, d'ailleurs, c'était 3 ans, c'était pas 2 ans, le gouvernement Renzi. C'était la gestion du référendum constitutionnel qui a
ça a été une erreur de faire passer cette réforme par un référendum.
Ça c'était obligatoire parce que la Constitution italienne prévoit que si on n'a pas les 2/3 de la majorité au Parlement, on doit.
En tout cas, c'était un gros risque qu'a pris Renzi.
Oui, il a pris trop de risques, je lui ai dit, ma position est connue. Il fallait pas lier aussi directement, il fallait dire que le référendum c'était un travail des parlementaires, la réforme Parlement constitutionnel, c'est un travail du Parlement, et maintenant, les citoyens auraient dû juger. De se mettre en première personne sur le référendum, il a payé cher, et on a interrompu un procès de réforme sans précédent en Italie. Hein. On a essayé de rattraper 30 ans de temps perdu. Voilà, peut-être c'est là la similitude. En France aussi, je crois qu'Emmanuel Macron fait des grands efforts pour rattraper 30 ans de temps perdu. Et moi, j'ai suivi pour longtemps la politique française. Je m'en souviens qu'il y avait un candidat à la présidence de la République qui parlait des fractures sociales. Il s'appelait Jacques Chirac.
La fracture sociale de Jacques Chirac.
De l'époque,
mais
semble que les choses. Vous êtes français, en fait. On s'y perd un peu.
Oh, je suis européen.
Vous êtes européen?
Je suis européen et j'aime beaucoup la France. Et j'ai connu la France dès l'âge de 17 ans. Et
vous aimez notre esprit de groupe et vous pensez que les Italiens sont plus fréquentables en tête à tête?
Je crois que. Oh non, non, non. Les Français aussi. J'ai très bons amis depuis longtemps en France. Mais disons qu'en tant que communauté, les Français sont parfois un peu plus organisés, un peu plus prévisibles que les Italiens.
C'est-à-dire que les Italiens sont particulièrement désorganisés.
Nous avons des grandes individualités.
Ouais. Sandro Gozzi, la phrase de Marine Le Pen à propos de Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur, qui est aussi vice-premier ministre. On est d'accord sur tout, dit-elle, à propos de Salvini. Sur quoi repose cette fascination réciproque de chaque côté de la Méditerranée entre ces deux personnes?
Il me semble que la fascination s'est inversée. Il me semble que c'est soit Marine Le Pen à courir auprès de Matteo Salvini, et Salvini me semble éviter un peu de s'afficher avec Marine Le Pen. Il faut demander à Matteo Salvini pourquoi. Il n'a pas trop envie de s'afficher avec Marine Le Pen, c'est pas à moi de
Oui, elle voulait apparaître sur une photo, ça n'a pas été possible lors du dernier rassemblement des extrêmes droites européennes.
Je crois que Matteo Salvini va venir à Paris pour rencontrer les ministres Castaner, on va voir s'il
fera Il manque pas de cynisme, hein, parce que là, il y a eu des régionales, en tout cas dans certaines régions d'Italie, et il a dit, fort de son succès, salutations à la gauche, et maintenant on change l'Europe.
Bon. Je vois pas comment les nationalistes et les extrémistes de droite tels que Marine Le Pen et Matteo Salvini pourront changer l'Europe. Tout d'abord, ils ont été en Europe longtemps. Ils ont été parlementaires européens pour longtemps. Ils n'ont rien changé, ils étaient d'accord sur rien, et ils n'ont même pas voté des mesures qui vont dans le sens de leur discours, comme les renforcements des contrôles extérieurs de l'Union européenne. Ils sont d'accord sur les désaccords. Parce que quand on entend les discours des nationalistes, je vois pas comment on pourrait mieux gérer la politique de l'immigration avec Salvini, ici, Premier ministre, et Marine Le Pen, présidente de la République. Honnêtement, les nationalistes sont d'accord seulement sur ce qu'il faut faire pour vider de l'intérieur l'Union européenne, mais ils n'ont aucune proposition commune. D'ailleurs, hier, il y avait une réunion des jeunes de l'extrême droite.
À Rome, les jeunes de l'extrême droite européenne se sont réunis à l'invitation de la branche jeunesse de la Ligue de Matteo Salvini. Il y avait les Allemands de l'AFD, il y avait les Autrichiens du FPE, il y avait les Belges du Vlaams Belang. Et en France, pour les Français, le Rassemblement National, dont la tête de liste aux Européennes s'appelle, on le rappelle, Jordan Bardella. On en a parlé un petit peu avant cette interview. Pourquoi disiez-vous avant cette interview que c'est un non-événement, cette réunion à Rome, des jeunes de l'extrême droite européenne?
C'est un non-événement, personne n'en a parlé en Italie, et aucune proposition est ressortie. Donc, ils sont jeunes, mais ils n'ont pas beaucoup d'idées communes.
Mais est-ce que l'Italie n'est pas en train de devenir l'axe central des extrêmes droites européennes?
Malheureusement, oui. Malheureusement, Salvini est un point de repère pour toutes les formes d'extrémisme et d'obscurantisme. Et d'ailleurs, l'événement qui m'inquiète beaucoup plus, c'est qu'aujourd'hui, à Vérone, ils ont invité tous les obscurantistes des 5 continents pour parler de la négation du droit à l'avortement. Pour parler, il y a seulement une famille naturelle, homme-femme, et donc ne parlons pas des droits de la communauté LGBT. C'est ça qui m'inquiète. Et d'ailleurs, Salvini, qui sait quels sont les vrais événements, il n'est pas allé à rencontrer Bardella, mais il va aujourd'hui dans une bataille obscurantiste contre les droits civils. Il veut démanteler les avancées en droits civils que nous avons faites avec le gouvernement Renzi, à commencer par les unions civiles ou avec la loi de fin de vie. Ça, c'est le danger. C'est un danger culturel, celui que Salvini veut mener à bien.
En France, les nationalistes sont au coude à coude dans les sondages avec la liste Renaissance, où vous figurez, Sandro Gozzi, à la 22e place. Avec quels arguments, donc, comptez-vous contrer cette possible vague à droite de la droite?
Mais je commencerai par ce qui se passe à Londres, et par le Brexit.
Le Brexit. Troisième que... non trois fois.
Hein. Oui, mais parce que finalement les Brexit, ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne, ils avaient raison. Du moment où ils demandaient de reprendre les contrôles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la politique n'a pas de contrôle sur des questions qui sont transnationales, qui dépassent les frontières nationales. Pensez à la lutte contre les changements climatiques, pensez à la nécessité de gouverner l'immigration, pensez à la nécessité de gouverner les grands géants du numérique et de la finance. C'est la réponse qui est mauvaise. Est mauvaise la réponse des Brexiters, c'est mauvaise la réponse de Marine Le Pen, est mauvaise la réponse
sortir de l'Europe, c'est une mauvaise réponse. Forcément, vous êtes un Européen convaincu.
On revient aux frontières nationales, on revient aux politiques nationalistes. Notre réponse est, nous pouvons être un nouveau souverain en tant qu'Européen.
Oui, mais c'est quand même paradoxal.
Nous devons
parce que
construire l'Europe souveraine qui puisse.
Mais on a bien compris le projet, mais comment convaincre.
Donner la possibilité de gouverner ces phénomènes.
Mais ces points-là, précisément, sur lesquels la politique nationale est impuissante, c'est précisément là qu'est la faiblesse de l'Europe aussi, sur l'immigration, sur le
c'est
terrorisme,
sur l'environnement.
C'est pour
cela qu'il faut refonder l'Europe. C'est pour cela qu'il faut
profondément refonder l'Europe.
Et d'ailleurs, hier, ça devait être les jours de la grandeur britannique. Si on avait écouté Beppe Grillo, Matteo Salvini, Marine Le Pen, qui en 2016 était pour le Brexit, hier, on aurait dû célébrer les jours de la grandeur retrouvée de l'Angleterre. Eh bien, c'est la crise et les désarrois. Il faut rappeler à ceux qui nous écoutent, Marine Le Pen voulait ça pour la France. Et Matteo Salvini voulait ça pour l'Italie. Je ne crois pas que c'est un bon choix.
Et sortir de l'euro et de la monnaie, et ça c'était revu et corrigé, ce n'est plus l'actualité.
Revu et corrigé pour ceux qui veulent y croire. Il est clair que les projets nationalistes, c'est de vider l'Union Européenne et sortir aussi de la zone euro. Il ne faut pas croire à Matteo Salvini quand il dit qu'il ne veut pas sortir. Tout ce qu'il fait, ça va à l'encontre de ça.
Sandro Gozzi, ancien ministre italien des Affaires européennes, président de l'Union des fédéralistes européens. Vous êtes candidat aux élections européennes pour la liste En Marche, la liste Renaissance. Vous restez avec nous. On va poursuivre cet entretien dans un instant avec d'autres questions d'actualité. À tout de suite.
En ce moment sur franceinter.fr, Série Mania, sur écoute. Une série de podcasts originaux 100% série en partenariat avec le CNC. Pendant toute la durée du festival Série Mania à Lille, plongez dans la culture série et retrouvez chaque jour l'actualité du festival, les interviews de Benoît Lagan, ainsi que les meilleurs moments consacrés aux séries sur France Inter. Série Mania, sur écoute, le nouveau podcast original de France Inter 100% série, à télécharger dès maintenant sur franceinter.fr.
Soyez les bienvenus, il est 8h32.
France Inter, le 6-9 du week-end.
Notre invité pendant 8 minutes encore, Sandro Gozzi, ancien ministre italien des Affaires européennes, candidat aux élections européennes sur la liste Renaissance, la liste En Marche. Cette liste Renaissance sur laquelle vous figurez, Sandro Gozzi, elle est dirigée par Nathalie Loiseau et Pascal Canfin, une jupéiste et un écologiste. Est-ce réellement une liste de la diversité ou plutôt une liste attrape-tout, la foire-fouille, disait Marine Le Pen?
Marine Le Pen a toujours des problèmes avec la diversité. Donc, je peux comprendre qu'elle puisse pas apprécier la diversité politique, culturelle et des différentes sensibilités pour une autre Europe que nous représentons. Mais moi, je crois que du moment où il faut refonder l'Europe, il faut aussi faire la politique européenne différemment. Il faut dépasser les clivages traditionnels. Il faut bouger les lignes. Et cette liste manifeste clairement un objectif que nous voulons mener à bien au Parlement européen, à savoir rassembler des hommes et des femmes des provenances différentes sur un programme bien clair de refondation européenne. Et nous voulons nous adresser aux sociaux-démocrates, aux verts, aux libéraux-démocrates, et à une partie du Parti Populaire Européen qui va comprendre que entre Juncker et Orbán, c'est invivable.
Viktor Orbán.
Donc, je crois que pour faire ça au Parlement Européen, c'est nécessaire d'incarner ça déjà dans notre liste.
Et pourtant, les eurosceptiques prennent un peu le pouvoir. L'Espagne qui était préservée jusqu'ici, l'Espagne commence aussi à avoir un regard intéressé sur les eurosceptiques. C'est un mouvement qui monte au-delà des nationalistes.
Oui, mais sans doute. Là encore, il y a la nécessité de ne pas laisser aux nationalistes certains enjeux fondamentaux. La question de la Catalogne ne peut pas être laissée seulement manipulée par Vox. De ce point de vue, Ciudadanos a fait une bataille importante. Et on va voir le 28 avril quelle sera la sortie. Pour le moment, j'y vois les trois premiers partis. Ce sont des partis qui ne sont pas Vox, ce ne sont pas des extrémistes de droite, et c'est bien ainsi.
Diversité de votre liste Renaissance, diversité, biodiversité, hein, le jeu de mots est facile, mais est-ce que vous allez vraiment tous, autant que vous êtes, y compris les Verts, effectivement, vous l'avez souligné à l'instant, prendre des engagements fermes?
Ce sont très fermes les engagements de notre programme.
Du point de vue de l'environnement. Sur le plan de l'environnement.
Absolument. Et sur la question de l'environnement, il faut se demander comment trouver les moyens politiques et économiques pour réaliser les objectifs de l'accord de Paris, pour réaliser les engagements que nous avons pris de la lutte contre les changements climatiques. Et il faut trouver les bons niveaux d'action. Les niveaux nationaux, ce n'est pas les bons niveaux d'action. C'est les niveaux européens.
Ça ira plus vite si c'est transnational.
Absolument. C'est le seul niveau possible pour répondre à la nécessité de prendre des mesures maintenant.
Et c'est ce que c'est dit maintenant. Aussi Yannick Jadot. Qu'est-ce que vous avez de différent avec lui sur le sujet?
Si les Verts partagent au Parlement européen c'est des priorités comme celles que nous proposons de créer une banque pour le climat.
Vous ventrez ensemble à ce moment-là.
De développer à l'intérieur de la Banque européenne des investissements une banque pour trouver les ressources. Ouais. Bon, très bien, ouais. Ils sont tous d'accord. Créons au Parlement européen une majorité là-dessus. Mais sans doute, et je crois que les choix de quelqu'un comme Pascal Canfin a tout à fait, c'est tout à fait les bons choix. Et c'est pas au niveau national qu'on peut s'engager sur ces questions des luttes contre le changement climatique. Les niveaux exacts, c'est celui européen. Et c'est là qu'on doit mener cette bataille.
La place de Canfin numéro 2, ce n'est pas simplement de la cosmétique pour faire oublier le départ de Nicolas Hulot auprès de Macron?
Écoutez, honnêtement, les questions franco-françaises, vous pouvez les demander à d'autres candidats. Moi, je suis fier.
Ne dites pas que vous ne connaissiez pas Nicolas Hulot.
Oui, je suis fier d'avoir quelqu'un comme Pascal Canfin porter une priorité fondamentale de notre liste, qui est la question de la soutenabilité, la question de la lutte contre le changement climatique.
Cette refondation européenne que vous incarnez en tant qu'Italien sur cette liste française pour une Europe plus puissante, est-ce que ça fait de vous, en Italie, l'ennemi public numéro un au regard du régime en place?
Bon, évidemment oui, ça fait deux jours que surtout le mouvement 5 étoiles, que je vous le dis à ceux qui nous écoutent, c'est une autre forme d'extrême droite et nationalisme, hein. Ce n'est pas une gauche un peu plus de mouvement. Et ça fait deux jours qu'ils m'attaquent comme traître italien. Parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir le fait que nous sommes citoyens européens. Et que nous discutons de l'Europe, nous discutons du Parlement européen, nous discutons de l'avenir commun de nous les Européens. Il faut s'engager ensemble.
Et français, italien, on est copains ou parce qu'on ne l'était pas trop, hein?
C'est aussi un des objectifs que je me pose. Le fait de souligner que des grands pays comme la France et l'Italie ont intérêt à avoir des relations d'amitié très fortes. On a beaucoup d'intérêts communs. Mais avec les provocations de Di Maio, c'est difficile. Donc il faut rappeler, il y a une autre Italie. Et moi, j'ai l'ambition de représenter une autre Italie par rapport à Salvini et Di Maio.
Au-delà des mauvaises relations entre les gouvernants franco et italiens, le sentiment anti-français, vous le ressentez également dans les rues italiennes?
Il est alimenté en permanence par le gouvernement en place et par des médias, une partie des médias qui sont au service du gouvernement en place. Il y a eu des services sur la France, sur Emmanuel Macron, sur Rai 2, c'est la chaîne du service public,
ça correspond
à France 2 en Italie, qui c'était vraiment écœurant. On a mélangé la finale de la Coupe du Monde 2006 avec les querelles franco-italiennes. Et c'est ridicule, mais c'est grave quand on pense au service public. Et c'est Di Maio et Salvini qui ont dit qu'Emmanuel Macron, c'est leur ennemi public numéro un. Mais ça, c'est les nationalistes ont toujours besoin de l'ennemi extérieur. Surtout pour cacher leur échec intérieur.
La Rai Uno ou la Rai Due, qui donc est à la solde du pouvoir, c'est ce
absolument.
Que vous dites aussi. Bon. Il y a un débat en France en ce moment sur la présence de deux journalistes dans la liste Renaissance que vous incarnez ce matin, dont un journaliste qu'on connaît bien ici à France Inter, c'est Bernard Guetta, qui dit vouloir
aussi,
rester journaliste. Vous allez le voir cet après-midi à Aubervilliers, j'imagine.
Non, je le connais depuis longtemps. J'ai retrouvé dans la liste des gens que je côtoie depuis beaucoup de temps.
Bernard Guetta veut rester journaliste et probable élu politique. Est-ce que cette double casquette vous surprend vu d'Italie?
Non, c'est de son droit. C'est de son droit.
C'est pas un peu l'amalgame, le tous pourri qu'on entend un peu trop souvent entre les médias, la médiacratie.
C'est de son droit, c'est tellement transparent. On sait bien que Bernard Guetta est engagé en politique et du moment où il fera les journalistes, tout le monde sait que c'est un journaliste qui est engagé en politique.
D'autres préfèrent changer de casquette et ne pas avoir les deux en même temps. On l'a vu aussi sur l'antenne de France Inter.
Je n'ai pas à juger ça.
Merci beaucoup Sandro Gozzi, ancien ministre italien des Affaires européennes, président de l'Union des fédéralistes européens. Je rappelle que vous êtes candidat sur la liste Renaissance. C'est le programme d'Emmanuel Macron qui va être appliqué, qui veut être appliqué. C'est lui qui était à la manœuvre au final.
C'est le programme de la liste Renaissance sur lequel il y a eu une équipe qui a travaillé, sur laquelle nous avons discuté. Que nous allons tous incarner.
Merci à vous et bonne journée dans un instant.
Merci à vous.
Presse.